98.5. Montréal. Très ville PM. Politique.
Qui m'a attendu vont à l'encontre de l'engagement pris par le premier ministre et m'a réitéré sa confiance de vive voix en mai dernier en me disant « Inquiète-toi pas, je ne te jouerai pas de tour, je vais signer ta lettre de candidature. »
Vous êtes déçu de votre premier ministre?
Lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux et on lui serre la main et on quitte la rencontre avec la certitude qu'on a une entente, et que cette entente n'est pas respectée, ça fait mal.
Voici Antoine Robitaille et Carl Bélanger.
Oh, que c'est dévastateur! Que c'est dévastateur, des moments comme ceux-là. Dans ce cas-ci, je pense que c'est vraiment dévastateur pour Philippe Couillard.
J'ai jamais vu quelque chose comme ça.
Ben, Antoine Robitaille, qui est notre commentateur, analyste, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Carl Bélanger, consultant en communication et ex-stratège politique sur la scène fédérale, notamment avec le bon Jack. Bonjour Carl Bélanger.
Bonjour messieurs.
Vas-y Antoine, tu dis que tu n'as jamais vu. Qu'est-ce que tu veux dire?
J'ai jamais vu un départ comme ça parce qu'il y en a, tu sais, il y en a beaucoup. Il y a souvent des partis, surtout le Parti libéral, qui réussit à convaincre un vieux routier de laisser sa place. Puis c'est ce qui est drôle ce matin, c'est que je relisais, sachant que monsieur Ouimet s'en allait, je suis remonté dans les journaux de 1994. Et là, je voyais qu'il y avait des vieux routiers aussi que M. Johnson, à l'époque, Daniel Johnson, qui était chef du Parti libéral, essayait de
passer
vers la sortie.
Mais oui.
Pour faire la place à qui? À François Ouimet, notamment.
Ah ben! Ah oui, hein?
François Ouimet qui était...
Comment tu dis, Carl?
Et Thomas Mulcair aussi était une recrue de Daniel Johnson.
Exactement, exactement. 94. Mais tout ouais, ça pour ouais. dire que ça arrive souvent, mais... Que ça soit fait dans ces circonstances-là et que ça mène à une crise comme celle-là, moi, je trouve que ça prouve qu'il y a eu un problème de gestion extrêmement grave. Écoute, qu'est-ce qu'il y a plus de dévastateur qu'un vieux routier qui part en disant « Moi, j'ai serré la main au premier ministre, l'ai regardé dans les yeux, puis il m'a donné sa parole. Or, sa parole vaut rien. Je vous le dis aujourd'hui, là, je suis obligé de partir. » Écoute. C'est dévastateur, là. Depuis des années, les libéraux essayent de dresser un portrait de François Legault, leur principal adversaire, comme un pas fiable.
Oui.
Tu te souviens, Jean Charest, mais aussi Pierre Moreau, tout ça, tu sais, François Legault, pas
c'est
fiable.
C'est la ligne d'attaque qu'ils se sont donnés pour l'élection, là, dans laquelle on vient de tomber, là.
T'imagines la réplique de François Legault? Je pense qu'il va y avoir les mots François Ouimet dans la réplique de François Legault à une toute attaque où on va soulever, où on va l'accuser d'être pas fiable. Alors, écoute, moi, j'en reviens pas, là. On est en fin de campagne préélectorale.
Mm-hmm.
Puis le gouvernement réussit à se pogner avec le PDG d'Hydro, qui a l'air de celui qui se soucie du bien commun. Puis ensuite, il jette un vétéran aux orties, comme une vieille paire de bas, qui avait été fidèle. En tout cas, je trouve que c'est très dur pour le Parti libéral aujourd'hui.
Puis je te rappelle, la stratégie des libéraux dans cette campagne, c'est d'attaquer Legault, mais d'attaquer Legault pour mieux montrer que c'est Couillard qui est le meilleur homme pour être premier ministre. C'est Couillard qui est compétent. C'est Couillard qui est l'espèce de force tranquille.
Mais oui.
Alors là, je vais te dire une affaire, qu'un député libéral sortant attaque ainsi l'intégrité de Couillard. C'est la pire affaire qui pouvait arriver aux libéraux.
C'est vraiment dur. Puis en plus, oui, mais il y a de la chair à argument, là. Parce que quel était l'argument qu'on voulait utiliser en tassant oui, mais? C'est de dire que Legault... Et mais désormais le plus ancien parlementaire de l'Assemblée nationale depuis le départ de François Gendron. Ah ben. Et là, on tasse Ouimet. Ah, qui est le plus vieux? Legault. Mais ça, c'est un argument.
Tu es en train de me dire qu'ils ont
sacrifié. C'est peut-être un bon argument à un moment donné, au détour d'une phrase.
Mais une des raisons pour lesquelles il aurait sacrifié Ouimet, c'est pour pouvoir être capable de dire pendant la campagne électorale que Legault est un vieux politicien. Puis
c'est Ouimet. C'est Ouimet lui-même qui l'a dit. Or, moi, quand j'ai dit ça ce matin aux conseillers libéraux, que j'en ai rencontré deux ce matin à l'entrée du Conseil des ministres, ils ont éclaté de rire, ils ont dit « Ben voyons, c'est pas ça ». Mais c'est ce que Mais c'est ce que plein de monde disent, là, qu'on, que c'était un des objectifs.
Hey, c'est cochon, ça, mon gars.
C'est cochon, mais c'est puéril comme argument. Tu sais, la volonté de changement là, de la population, est-ce que c'est vraiment sur l'âge de la personne? Hein? Moi, je te dis, j'ai pu voir ce matin une discussion Facebook très intéressante entre un ancien conseiller de Jean Charest, Mario Lavoie,
oui.
Je le dis parce que c'est public, qui a dit « Je ne vois pas en quoi l'âge d'un individu a rapport avec sa capacité d'apporter du changement ou non. On est en train de faire de l'âgisme ici. » Et il commentait le cas « Oui, mais ». Puis après ça, il fait remarquer aussi que qui représentait le changement pour plusieurs jeunes dans les dernières élections américaines?
Bernie Sanders.
Puis en Angleterre, c'est Jeremy Corbyn. Donc, ça n'a pas rapport avec l'âge. Ça n'a pas rapport avec l'ancienneté dans la machine.
Oh.
En tout cas, je trouve que c'est un argument puéril. On a essayé de se servir de « oui, mais » pour faire ça, de tasser pour ça. Moi, je trouve que ça leur pète au visage de façon incroyable.
Alors là, on pense que c'est Ciccone, l'ancien joueur de la Ligue nationale, qui se présenterait donc dans Marquette pour les libéraux. On
ça semble acquis.
Oui, bon.
Mais je vais te dire, ça, c'est un autre problème. T'imagines, t'es Ciccone, toi. T'arrives à ton assemblée d'investiture ou ton annonce. Écoute, tu te sens un peu salaud là, de remplacer le gars qui part en pleurant, qui est là depuis 24 ans, puis qui a 24 ans de loyaux services. En tout cas, moi, je suis certain qu'il sait très bien qu'il va devoir répondre à ces questions-là. Je trouve que ça part mal.
C'est ce qui est un peu incompréhensible là, dans le cas de M. Ouimet, de faire de la place pour Ciccone, je veux bien, mais c'est pas comme s'il n'y en avait pas des députés libéraux qui ont quitté le bateau dans les derniers mois. Là. C'est pas comme s'il n'y en avait pas des comtés qui se sont ouverts. Et je comprends pas pourquoi on sacrifie un député de cette façon-là contre son gré pour créer encore une mauvaise histoire pour le Parti libéral et Philippe Couillard.
Là, il y a eu des réactions, Antoine?
Écoute, il y a eu un petit problème technique, je vous ai mal entendu.
Est-ce qu'il y a eu des réactions de collègues de,
oui, oui.
de François Ouimet?
Oui, il y a eu plusieurs réactions. Plusieurs ont dit que c'était le privilège du premier ministre, notamment Pierre Moreau, Christine Saint-Pierre aussi. Il y a Stéphanie Vallée qui a dit « Mon collègue aurait mérité mieux ».
Oui.
Et l'autre réaction étrange, c'est Véronique Tremblay, la ministre déléguée au transport, qui a dit « Ben, il peut se présenter pour un autre parti ou comme indépendant ».
Oh boy!
Oui, je te jure. On peut écouter quelques extraits à l'entrée du Conseil des ministres.
Ce sont des décisions qui n'ont pas dû être faciles à prendre pour le parti, mais à un moment donné, lorsqu'on nous demande de quitter, bien, il faut avoir l'élégance de le faire.
Mais est-ce que c'est une perte pour le parti?
Écoutez, moi, je dois vous dire que la gestion du parti, des nouveaux candidats, fait partie de ceux, c'est les responsabilités de ceux qui construisent la nouvelle équipe. Alors, à partir de là, il faudrait leur poser la question à eux.
Je ne commenterai pas au niveau des vétérans. Moi, je pense qu'en politique, s'il y a d'autres partis aussi qui sont là, il est toujours possible de se présenter comme indépendant. Ceci dit, M. Ouimet est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié.
Ça, c'est Mme Tremblay, la
oui,
dernière,
c'est
non?
Véronique Tremblay.
Bon. OK. On va...
Alors, juste deux échos là, de ce qu'on entend. Il y a plusieurs qui disent, tu sais, à micro fermé, que, ben, il faut annoncer des nouveaux visages, ça, c'est important. Mais il y a d'autres qui disent, ben, et ça, c'est Jonathan Trudeau aussi qui m'a, mon ami jouteur, qui m'a relayé ça. Et il le mérite un peu, se disent certains, parce qu'il n'était pas reconnu comme un grand travaillant dans son comté. Il aurait même été convoqué au bureau du WHIP pour ça. Alors, c'est peut-être.
Ouais, ça fait longtemps que ça circule. Hein. J'en avais parlé à Paul Arcand, au mois de mars.
T'as raison.
Puis un nouveau mois de mai.
Il y a une autre affaire, là. Il s'est pogné aussi avec Jean-Marc Fournier. Hein? Jean-Marc Fournier qui avait vraiment gâché tout le débat autour de la rémunération des députés. Mm. Puis le 7 décembre 2017, François Ouimet, qui parle jamais parce qu'il était vice-président de l'Assemblée nationale, a donné un point de presse pour rectifier les faits.
Ouais.
Donc, pour contredire Jean-Marc Fournier.
Pour mettre un peu à sa place, Jean-Marc Fournier.
Ah oui, est-ce qu'il y aurait un lien? Je serais prêt à dire que Jean-Marc Fournier, qui, oui, est parti, ou s'en va, ou ne se représente pas, mais sera dans l'autobus du chef.
Ah oui, emmène large.
Peut-être que...
Emmène large. Est-ce qu'il y aurait de l'hommerie là-dedans? Ça se pourrait. La politique puis l'hommerie, ça va longtemps, ça va souvent ensemble.
En tout cas, je vous ai soumis plusieurs hypothèses, dont l'hommerie.
Carl Bélanger. On change de sujet. On parle maintenant du comportement de Justin Trudeau. Parce que là, les allégations d'inconduite sexuelle contre Justin Trudeau continuent de faire des vagues?
Effectivement, il y a une nouvelle pétition électronique qui a été mise en ligne concernant ces allégations. On se rappelle qu'au début de l'été, il y a un éditorial écrit il y a 18 ans qui a refait surface. Un éditorial qui avait été publié dans le Creston Valley Advance, dont je suis maintenant un fervent abonné. Et dans cet article-là, Justin Trudeau, on alléguait qu'alors qu'il était âgé de 28 ans, il participait à un événement en Colombie-Britannique, à Creston donc, et qu'il aurait touché, qu'il aurait manipulé, qu'il aurait taponné une jeune journaliste de manière inappropriée. Et ça a pris beaucoup de temps à Justin Trudeau de s'expliquer là-dessus. Et je dois dire là, que ses explications étaient plus ou moins convaincantes. Écoutons ce qu'il avait à dire là, le 5 juillet à ce sujet.
I've been reflecting very carefully on what I remember from that incident almost 20 years ago. And again, I am confident that I did not act inappropriately. If I apologized later, then it would be because I sensed that she was not entirely comfortable with the interaction we had.
Okay. C'est très enveloppé, ça. Si tu nous résumais ce qu'il vient de dire, là.
Mais dans le fond, il dit je ne pense pas avoir agi de manière inappropriée, mais si je me suis excusé, c'est probablement parce que j'ai senti que la femme en question avait pas interagi avec moi de la manière dont je pensais qu'elle interagissait.
Ouais.
C'est un peu alambiqué. Là, on est loin de faut absolument croire les victimes, mais c'est un peu le problème.
Oui, ça c'est vrai.
C'est un peu le problème. Mais la tempête s'était calmée depuis parce que bon, la victime alléguée ne voulait pas parler. Elle était forcée de faire une déclaration pour s'en sortir.
Mais elle a confirmé les faits. Lorsqu'elle a fait sa déclaration, elle a confirmé les faits.
Oui. Confirmé les faits. Et ses employeurs à l'époque, ceux qui étaient au Creston Valley Advance, ont confirmé également la version qui a été rapportée. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est un mois plus tard, un mois et demi plus tard, mais il y a une pétition électronique qui a été mise en ligne le 1er août. Et la pétition dénonce le deux poids, deux mesures qui semble s'appliquer ici. Elle demande à Justin Trudeau, et je cite, « de respecter les mêmes normes qu'il a fixées pour son caucus ».
Ça veut dire quoi, ça?
Mais il faut dire que Justin Trudeau, depuis qu'il est chef, il a mis 4 députés libéraux à la porte.
Faudrait qu'il
pour des questions d'inconduite sexuelle.
Faudrait qu'ils s'auto-mettent à la porte?
Et voilà, c'est la tentative qui est faite, c'est le lien qui a été fait, c'est que les mêmes normes ne sont pas appliquées, on parle de deux poids, deux mesures. Pourquoi c'est un problème pour Justin Trudeau? Mais c'est parce que la pétition est sur le portail électronique du Parlement. Donc, c'est une pétition officielle.
Oui, mais ça, tout le monde a ce droit de déposer une pétition, non, devant le Parlement?
Effectivement, tout le monde, tout citoyen canadien, tout résident du Canada a le droit de déposer une pétition, mais pour qu'elle devienne officielle, ça prend quelqu'un qui la commandite, quelqu'un qui la mette de l'avant. Et dans ce cas-ci, ça prend une députée, évidemment, la députée conservatrice Michelle Rempel, qui parraine la pétition.
Oui.
Ce qui permet de publier cela. Et ça va forcer le gouvernement à répondre dans les 45 jours s'il obtient 500 signatures. Donc, c'est embarrassant pour le gouvernement Trudeau. Parce qu'on va être forcé de ramener cette question sur le tapis. Et je dois vous dire, Bernard, j'ai vérifié ce matin, la pétition, on parlait d'un minimum de 500 signatures. En deux semaines, on est rendu à 4257 signatures.
Fait que c'est sûr.
Alors,
que
le gouvernement va être forcé de répondre.
C'est intéressant.
Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on voulait enterrer ça, on voulait passer à autre chose.
Voilà.
Et ça revient, ça va continuer de faire mal à Justin Trudeau et à son image de féministe engagé.
Très bien. C'est une histoire qui ne mourra pas parce que, bon, on comprend que les conservateurs aussi jouent leur game à travers ça.
Effectivement, c'est tout à fait partisan, mais.
Ben oui, mais en même temps, Justin Trudeau aime beaucoup prêcher et sermonner sur ces questions-là. Ben là, il est un petit peu pris à son propre jeu.
C'est lui qui parlait de tolérance zéro.
Voilà.
Mais dans ce cas-ci, c'est 0,5.
Oui. Dans un instant, on va s'arrêter. Dans un instant, on revient avec Carl et Antoine pour plus de commentaires et analyses. De retour donc avec Carl Bélanger et Antoine Robitaille. Antoine, autre question, tu y faisais référence, autre controverse qui a empoisonné la vie du gouvernement libéral ces derniers jours, c'est tout le dossier là du projet éolien à Pouillatte sur la Côte-Nord. Et là, Pierre Moreau a encore été obligé de réagir là.
Oui, parce qu'il y a eu une réunion et des premières réunions de... C'est-à-dire, il va y avoir une première réunion de négociation aujourd'hui depuis un bon bout de temps. On a même changé l'équipe de négociateurs.
La composition, oui. Mm-hmm.
D'Hydro-Québec.
Ouais.
On essaie de s'entendre, je le rappelle, avec les Inuits qui ont de l'électricité, qui auront de l'électricité à vendre lorsque leur parc éolien sera construit. Les Inuits et Boralex, donc, et une autre compagnie là, européenne qui va être un partenaire là-dedans. Première négociation aujourd'hui. M. Moreau, lui, ce qu'il fait, c'est qu'au fond, il critique l'attitude d'Hydro-Québec qui est très réticente, très réticente.
Encore aujourd'hui?
Oui, absolument.
Encore aujourd'hui, il a critiqué Hydro?
Absolument. Il a même dit que Martel avait commis un impair.
Mais moi, je pense que les libéraux perdent des points avec cette histoire-là, moi. Je pense je pense qu'il y a plus de citoyens qui sont d'accord avec Martel, qu'il y en a qui sont d'accord avec la position du gouvernement libéral.
Ah oui, moi aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression, puis le gouvernement n'arrête pas de dire c'est important pour nos relations avec les Premières Nations.
Oui.
Ça, je comprends. Puis c'est vrai que c'est important de s'entendre avec les Premières Nations. Mais en même temps, on est là face à une situation de négociation. Là, tu as Hydro-Québec qui essaie de s'entendre et tu as le gouvernement qui est le premier actionnaire, l'unique actionnaire d'Hydro-Québec, qui dit, attention, les Premières Nations, là, ils vont tout bloquer les autres projets si vous ne vous entendez pas. Alors, quel poids a Hydro-Québec pour négocier là-dedans?
Ils n'ont pas de rapport de force.
En train de saper complètement le rapport de force. Je pense que c'est ça que les gens ressentent, qu'on aimerait quand même que le gouvernement essaie que notre navire amiral... de société d'État, les sociétés d'État là, puissent avoir quand même une bonne entente. Est-ce qu'il faut, pour s'entendre...
Il faut signer à tout prix.
Oui, c'est ça.
Mais moi, t'as pas entendu dire, comme moi, que finalement, le gouvernement, voyant les dommages que ça risquait de faire, puis voyant les pertes électorales que ça pourrait éventuellement leur amener, t'as-tu entendu dire, toi, que le gouvernement était peut-être prêt finalement à accepter que l'entente ne soit pas signée avant les élections, qu'il était peut-être prêt à laisser ça aller?
J'ai écouté à peu près tous les points de presse en fin de semaine, puis le premier ministre a quand même dit à plusieurs reprises, si on a une entente de principe là, avant les élections, ça peut faire l'affaire.
OK.
Oui, on est là-dedans. Bon. Puis c'est au conseil d'administration où on entendrait que ça serait nécessaire de reporter ça après les élections. C'est deux choses. Effectivement, okay. Ça va dans ce sens-là, Bernard. Oui. On peut écouter Pierre Moreau ce matin à l'entrée du conseil des ministres où il parle de l'impair de M. Martel, donc le PDG d'Hydro.
Ce qui met en lumière, c'est que je pense qu'il y a eu un impair qui a été commis. Maintenant, ce qui est important pour moi, honnêtement, là, au-delà des individus, c'est vraiment le fond du dossier, le fait que les négociations reprennent ce matin et qu'on puisse arriver à une conclusion de ce dossier-là. Et je n'ai fixé, et personne n'a fixé d'échéancier pour un résultat. C'est important aussi de le mentionner.
Okay.
Donc, pas d'échéancier. Plus d'échéancier.
Voilà. Oui, voilà.
Écoute, on devait l'annoncer le 8 août. La date avait été fixée, on avait commencé à faire des démarches pour préparer l'annonce.
OK, on suivra ça. On retourne à Ottawa avec Carl. Parle-nous donc des vacances au gouvernement. C'est quoi? C'est des nominations qui n'ont pas été faites?
C'est des nominations qui ne sont pas faites. Ça devient un problème chronique. C'est une histoire qui revient périodiquement dans les médias. Mais aujourd'hui, c'est la presse qui a mis la main sur un mémo du bureau du conseil privé qui fait une synthèse de toutes les nominations à faire juste avant l'élection d'octobre 2019. Et Justin Trudeau a beaucoup de difficultés à combler tous ces postes vacants-là. La liste est très longue. Une dizaine de sénateurs, des présidents d'organismes comme Téléfilm Canada, comme le Centre de recherche pour le développement international, comme le Musée des beaux-arts du Canada, la Fondation canadienne des relations raciales. Ça n'a pas de leadership présentement. On attend après le gouvernement Trudeau. Dans les sociétés d'État, c'est la même chose. Pas de PDG à Société canadienne des postes, Monnaie royale canadienne, Via Rail, Régie canadienne de l'énergie, Exportation et développement Canada. C'est une longue liste. Il y a eu plusieurs autres cas au cours des dernières années. L'Élection Canada, ça a pris presque 2 ans à trouver quelqu'un. Et finalement, ils ont nommé celui qui avait mis là de manière intérimaire, qui était le numéro 2, Stéphane Perrault, un gars très compétent, mais le gouvernement a pris tout son temps pour le nommer. L'angle officiel, c'est un fiasco. C'était dans les mains de Mélanie Joly. Ça a pris encore une éternité. Mm. Ça n'a pas toujours été comme ça, Bernard. On se rappelle dans le bon vieux temps. Hein, ouais. Dans le temps de Jean Chrétien, on aimait les gens, ça passait.
Ben,
d'ailleurs, Jean Chrétien...
un bon libéral, puis on lui donne bon une libéral, job, ben, et voyons
voilà,
toi.
Et voilà, mais il s'est fait poser la question, Jean Chrétien, dans un colloque l'an passé, pourquoi ça prend autant de temps? Voici ce qu'il avait à dire.
Ben, they should do it fast. Je suis pas le ministre de la Justice. Moi, quand j'étais là, apparemment, ça brasse vite. Mais ils sont plus jeunes et puis ils font ça différemment. Et aujourd'hui, c'est trop compliqué. Tout le monde veut avoir un système de nomination avec tout le monde les doigts dans le gâteau. Et des comités. Je vais vous dire, je suis contre ça.
Eh oui, non, lui s'ennuie du bon vieux temps quand c'est lui qui est nommé.
Puis s'agissait de contrôler le gâteau.
Puis s'agissait d'être un bon libéral pour que tu aies le droit à ton morceau de gâteau.
Et qu'est-ce qu'un chameau? Un cheval dessiné par un comité.
Oui, mais sais-tu quoi? Dans le cas des nominations partisanes, là, il y a tellement eu d'abus. Là.
Ben oui.
Tu sais, du monde qui a été nommé à des postes qui 100 000, 150 000, des gros salaires, des gros avantages, juste parce qu'il était de la bonne couleur politique puis il n'était pas nécessairement compétent pour faire la job. Sais-tu quoi? Moi, j'aime mieux que ça prenne un peu plus de temps puis qu'il nous nomme un compétent plutôt que de nommer juste du monde du parti au pouvoir. Mais c'est mon idée.
C'est l'idée du gouvernement Trudeau. Il dit que c'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend un processus de nomination fondé sur le mérite, mais il y a quand même 1500 postes dans l'appareil fédéral qui relève du premier ministre, il faut les nommer parce que ça a des conséquences. Les appareils judiciaires, par exemple, les tribunaux, les juges, ça crée des délais importants.
Carl, quand t'entends la musique, il faut s'arrêter. Carl Bélanger, consultant en communication et stratège politique. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du journal. Salut à tous les deux. À demain.
À bientôt.